Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Dans cette édition de Santé pour tous, nous nous intéressons à la tuberculose et aux mécanismes de lutte contre cette maladie dans notre région. Nous recevons à cet effet la voix la mieux autorisée pour en parler, le docteur Ganava Maurice, qui est le coordonnateur du groupe technique régional de lutte contre la tuberculose à l'extrême nord. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steph Bi, au micro de présentation. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement et surtout ne bougez pas les guides de votre récepteur. On se retrouve derrière cette courte respiration pour démarrer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Cette maladie sévit le plus dans les zones où les conditions de vie sont précaires, comme cela est le cas ici dans notre région. À travers son programme national de lutte contre la tuberculose, en abrégé PNLT, le Cameroun a lancé un plan stratégique visant à améliorer la détection des cas de tuberculose active et latente parmi la population à risque et accroître les taux de succès thérapeutique. Ce plan mise pour cela sur le déploiement sur toute l'étendue du territoire des centres de diagnostic et de traitement gratuits des personnes souffrant de tuberculose. Mais malgré ces efforts des pouvoirs publics pour éradiquer la tuberculose, force est de constater que cette maladie continue de sévir dans nos communautés. Ici à l'extrême nord, la situation est toujours préoccupante. Dans les différentes formations sanitaires, l'on constate une recrudescence de cette maladie avec plusieurs nouveaux cas de tuberculose diagnostiqués chaque année. À titre illustratif, plus de 4133 cas de tuberculose ont été dépistés au cours de l'année 2022 dans la région de l'extrême nord, ce qui fait d'elle l'un des principaux foyers de cette maladie dans notre pays. L'une des raisons qui pourrait justifier cela réside sans doute dans la méconnaissance de cette maladie. Qu'il s'agisse de son mode de transmission, de ses symptômes ou des précautions à prendre pour éviter les contaminations, on constate avec amertume que nos communautés n'ont pas toujours les connaissances requises pour freiner la propagation de cette maladie très contagieuse. Avec le précieux concours de notre invité, nous allons, mesdames, messieurs, revenir sur tout ce qu'il faut savoir sur la tuberculose. Nous allons aussi nous attarder sur le mécanisme mis en place pour prendre en charge les patients et lutter contre cette maladie dans notre région. Mais avant cela, nous allons prendre notre traditionnelle rubrique Vox Pop en écoutant les avis recueillis auprès de quelques personnes rencontrées dans les rues de Marois sur la tuberculose.
La tuberculose est une maladie contagieuse qui se caractérise par la présence d'une toux intense, oui, et puis les mal gastriques. La tuberculose peut être contaminée par le contact de la salive. Et puis le fait qu'une personne saine utilise les ustensiles ou bien le même gobelet que la personne qui est contaminée. Oui, cela aussi peut nous contaminer. Et puis il y a aussi la toux. Quand une personne toux, la personne qui est contaminée, une personne tuberculeuse, il faut une distance pour ne pas que la salive d'une personne contaminée puisse entrer peut-être dans notre bouche ou contacter notre corps. Si quelqu'un a la tuberculose, premièrement, la personne doit aller se faire examiner ou prendre en charge à l'hôpital. Et puis, en ce qui concerne son environnement à la maison, il doit un peu rester isolé. Donc, ne pas utiliser les mêmes matériaux que les autres pour éviter la contamination.
Moi, je dirais que la tuberculose est une maladie contagieuse qui se manifeste de plusieurs façons, par la toux, par les migraines et autres. Et cette maladie, elle est très contagieuse. Et à mon avis, je crois qu'il existe deux sortes de tuberculose, la tuberculose pulmonaire et la tuberculose osseuse. Et donc, je crois que c'est une maladie que chacun de nous est appelé vraiment à lutter. Oui. Par les sensibilisations, les yeux de la propriété et aussi savoir comment se prendre quand on se retrouve en groupe. Je venais de dire que c'est une maladie contagieuse par la voie respiratoire et aussi par les salutations, ouais, de toucher quelqu'un. Donc c'est possible de contracter cette maladie. Bon, pour éviter la tuberculose, chacun de nous est appelé à prendre soin de lui-même. C'est-à-dire être propre, se laver les mains régulièrement, boire de l'eau dans des récipients propres. Ouais.
Moi, c'est Judith. La tuberculose, c'est une maladie d'abord contagieuse et elle se manifeste par la toux chronique. Elle se contamine par le fait que la personne tousse et après, si sa salive touche une autre personne, et du coup, ça peut contaminer cette personne. Pour éviter la tuberculose, il faut mettre le cache-nez pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas aussi être contaminé. Il faut aussi se vacciner.
Indiam Abdul Nasser mi do andi tuberculose donc ko andirmi nyaaw tuberculose to ayi hunde man don har goddo o do sondo ban damba to ayi mama o do sondo non ni way bata o de a o fofta o jodo ban nyaawbe damba nyaaw man do ferdindiri be damba seeda kam amma to ayi no goddo man woni a wi'an dum damba woni ama ko e bo dum foynan goddo masin dum foynan goddo to goddo an tay nyaaw man dum kango woni yarma ko o hoy traitement a wi'an nyaaw majum do nandi bana sida yo amma dum fere fere be nyaaw sida o non non el ko tamran mi docteur to ndayam damo hala nyaaw tuberculosis kam noy tuberculosis rabata heba hisato heba to wodi jodi do be nyaaw do majum bo o tindinam mi dedei noy nyaaw tuberculosis la rabata e bo o tindinam mi bo noy traitement magu wa'i o non mi do andi goddo nyaawdo tuberculosis amma min gondai sare wore bon be do be don biya to alaaru en nyaawdo mo mari tuberculosis ko alaaran modum wona distant be mako dum dayndaay tirom seeda.
Moi c'est Caroline. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse qui est causée par le bacille côte seulement. Donc cette maladie attaque souvent le poumon. Ça se manifeste par les toux, par les fièvres, la fatigue, l'anémie aussi. Pour éviter cette maladie, on doit se réserver, on doit prendre les précautions, se protéger. Du côté d'hygiène, on doit essayer de revoir notre alimentation, voir protéger ce qu'on mange, éviter certains aliments qui peuvent aggraver la maladie. Pour chez les bébés, il y a la vaccination pour la tuberculose. Donc, je pense que les bébés doivent prendre régulièrement les vaccins afin de pouvoir échapper à cette maladie. Si quelqu'un a la tuberculose, si les symptômes se manifestent, moi je propose que cette personne se rapproche plus rapidement d'un centre de santé le plus proche de chez lui pour que le médecin puisse faire les diagnostics afin de prendre les précautions. Bon, pour la santé des autres, il est préférable d'isoler la personne atteinte de cette maladie pour ne pas contaminer encore les autres, étant donné que c'est une maladie contagieuse et infectieuse. J'ai une voisine qui avait la tuberculose et quand les médecins ont diagnostiqué que voilà, ils ont découvert que c'est la tuberculose, on l'y a mis à part. Elle n'est pas en contact avec les autres. Genre, on l'a isolée parmi les autres et elle mange à part, elle boit l'eau avec le gobelet que les autres n'utilisent pas. Bref, elle utilise ces choses à part. Parce que si elle utilise ce que les autres utilisent, elle peut être contaminée. C'est pourquoi on l'a isolée à part. Elle a bien suivi ses traitements et maintenant, je crois qu'il n'y a plus. Elle est guérie.
Fidèles auditeurs de Radio Serré, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, qui aujourd'hui passe au peigne fin le mécanisme de lutte contre la tuberculose et de prise en charge des personnes souffrant de cette maladie dans notre région. Sans plus tarder, j'accueille le docteur Ganava Maurice, coordonnateur du groupe technique régional de lutte contre la tuberculose à l'extrême nord. Bienvenue docteur et merci d'accepter de vous prêter à cette émission de sensibilisation.
Merci également à vous pour cette opportunité que vous nous honorez de parler de la tuberculose de manière globale et plus particulièrement dans la région de l'extrême nord.
Dans cette émission, nous allons parler d'une manière particulière justement du mécanisme régional de lutte contre cette maladie ici à l'extrême nord. Mais avant, on va s'attarder un peu sur les généralités sur la tuberculose. Déjà, dites-nous, c'est quoi la tuberculose et quelles sont les différentes formes de tuberculose les plus courantes?
Alors, il faut dire que la tuberculose, déjà, c'est un problème de santé publique au Cameroun. En fait, c'est une maladie infectieuse causée par une bactérie appelée bacille de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Et c'est une maladie qui est contagieuse également.
Les différentes formes les plus courantes de tuberculose, on suppose bien qu'il y en a plusieurs.
Oui, généralement on classe la tuberculose en deux grandes formes. Il y a la forme pulmonaire et la forme extra-pulmonaire. Et de ces deux formes, c'est la forme pulmonaire qui est le plus fréquent. Et c'est la forme qu'on suit particulièrement parce que c'est la forme contagieuse, contrairement à la forme extra-pulmonaire qui n'est pas contagieuse.
Donc en résumé, il y a des formes, alors il y a des patients tuberculeux qui ne courent aucun risque de contaminer leur entourage.
Oui, bon, mais c'est à l'appréciation quand même du personnel de santé. Mais déjà, 80% de tuberculose que nous avons, c'est la forme pulmonaire. Et donc, c'est la forme contagieuse. La forme extra-pulmonaire, le diagnostic est assez complexe. Et souvent, il faut être plus aguerri pour poser le diagnostic. Et dans la forme extra-pulmonaire, nous mettons la tuberculose, par exemple, osseuse, la tuberculose méningée, les autres. Donc, parce que la tuberculose touche non seulement le poumon, mais également tout le reste des organes peut être attaqué par les organes. Quand c'est la forme pulmonaire et quand c'est le poumon, ça peut être contagieux. Mais maintenant, les autres organes, par exemple, comme le rein, les intestins, les os, ça peut être également être atteint par la tuberculose et cette forme n'est pas contagieuse. Mais c'est une forme qui est quand même qui n'est pas très importante.
Alors, docteur, vous parlez là de contagion. En dehors de ce mot-là, comment est-ce que cette maladie, comment est-ce que la tuberculose se contracte?
Alors, la tuberculose, le mode de transmission, c'est par voie aérienne. Déjà, ça veut dire que c'est lors de l'effort de tout. Quand un patient ou bien quand un tuberculeux tousse, il émet dans son entourage des gouttelettes chargées de BECA, donc les bacilles de Koch. Et donc, la personne qui est en contact peut inhaler ces gouttelettes et voilà, la personne peut être contaminée de cette façon.
C'est le seul moyen, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire, par exemple, qu'un patient tuberculeux a touché un objet, que moi, à mon tour, je viens le toucher, je peux contracter la maladie. Le seul moyen, ce serait que je respire un air infecté par le patient.
Effectivement. Donc, c'est pour cela que souvent, il y a des formes de stigmatisation autour de la tuberculose. On ne peut pas se contaminer en saluant un patient tuberculeux, par exemple, ou bien en mangeant ensemble avec un tuberculeux, ou bien en touchant les objets d'un tuberculeux. La voie de contamination, c'est par voie aérienne.
Justement, vous avez évoqué un point sensible de cette émission, les stigmatisations. On y reviendra tout à l'heure. Déjà, docteur, lorsque quelqu'un est contaminé par la tuberculose, comment est-ce que cette maladie se manifeste chez la personne? Quels en sont les symptômes?
Alors, nous allons beaucoup plus nous attarder sur la forme pulmonaire parce que c'est la forme contagieuse et c'est la forme la plus fréquente. Les autres, je vous ai dit, pour la forme extra-pulmonaire, le diagnostic est assez complexe, donc on ne va pas beaucoup s'attarder. Maintenant, pour la tuberculose pulmonaire, nous retenons principalement 4 signes et symptômes qu'il faut vraiment le savoir. Premièrement, il y a la toux. Deuxièmement, la fièvre. Troisièmement, perte du poids ou amaigrissement. Et en quatrième position, c'est les sueurs nocturnes. Mais maintenant, ce qu'il faut également savoir, un de ces signes peut amener à faire suspecter la tuberculose. On n'attend pas toujours que le patient se présente avec les 4 symptômes pour suspecter la tuberculose. Dès que la personne tousse, ça peut être la tuberculose. Bien qu'il y a d'autres maladies qui peuvent entraîner la toux. Mais déjà, c'est un des signes qu'on peut suspecter la tuberculose.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur durée à en prendre en considération dans l'observation de ces symptômes? Est-ce que subitement, lorsqu'un patient ressentirait l'un de ces 4 symptômes, il faut déjà s'inquiéter ou alors il faut attendre une certaine période, une certaine durée?
Alors, il faut dire que le programme est actuellement dans la recherche active des cas de tuberculose. Donc, la notion de durée n'est pas prise en compte. Dès que la personne présente ses symptômes, c'est déjà un cas suspect de tuberculose, on fait déjà le test. Voilà.
Alors, nous sommes dans une région où, en raison de plusieurs facteurs, il y a parfois des maladresses ou des négligences lorsque, justement, un patient arriverait à avoir ces symptômes que vous venez de lister, docteur. Si, par aventure, quelqu'un est à l'écoute de cette émission et ressent ces symptômes ou alors à quelqu'un dans son entourage qui a ces symptômes, qu'est-ce qu'il est censé faire et surtout aussi qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire?
Alors, Déjà, dès qu'on a un de ces signes, toux, fièvre, perte du poids, sueur nocturne, il faudrait se rapprocher vers la formation sanitaire la plus proche. Parce que le programme a mis en place un dispositif où même si dans une formation sanitaire, il n'est pas possible de faire le diagnostic de la tuberculose, il y a un mécanisme de transport d'échantillons qui est mis en place. Donc, dès que vous avez un de ces signes, rapprochez-vous de la formation sanitaire la plus proche. Et je vous rappelle que le diagnostic de la tuberculose est gratuit, de même que le traitement. Donc, il n'y a pas de raison de rester à la maison.
Mais vous entrez déjà de plein pied justement dans le second volet de cette émission qui est plus ou moins le mécanisme de riposte ou alors de prévention de cette maladie dans notre région. Mais vous avez dit tout à l'heure lorsqu'on ouvrait cette émission que la tuberculose est un réel problème de santé publique. Quelle est la situation épidémiologique de la tuberculose dans la région de l'extrême nord actuellement, docteur?
Alors, il faut dire que nous avons quand même assez de cas de tuberculose dans la région de l'extrême nord. Si nous prenons l'année 2022, nous avons dépisté au total 4133 cas de tuberculose. C'est-à-dire que c'est... Et là même, nous n'avons pas atteint la cible que le programme a assigné pour la région. On est autour de 80%. C'est-à-dire que si on cherche et que le patient arrive rapidement dans une formation sanitaire, on peut diagnostiquer le plus précocement possible et puis on peut le traiter également. Donc, c'est effectivement un problème de santé publique, c'est un problème de santé réel qui est dans la région de l'extrême nord.
4000 cas, c'est beaucoup, docteur. Je rappelle qu'en préparant cette émission, j'ai remarqué que la région de l'extrême nord fait partie des principaux foyers de tuberculose au Cameroun.
Effectivement, il faut dire que la région de l'extrême nord, avec la région de littoral et du centre, porte véritablement le lourd fardeau de la tuberculose au Cameroun. Les trois régions réunies font plus de 50% de cas de notification de manière globale. Et nous, la région de l'extrême nord, la particularité, on a quand même un certain nombre de choses, des facteurs de risque qui nous prédisposent à la tuberculose. Déjà, la population est assez dense. Vous savez très bien que la population est dense. Il y a également la promiscuité et surtout dans notre contexte d'insécurité avec les déplacés internes, avec les mouvements. Donc ça, c'est un peu sérieux. Et il faut également dire dans notre contexte la malnutrition, c'est aussi un facteur de risque. Et n'oublions pas aussi le VIH, parce que c'est aussi un terrain fertile pour le développement de la tuberculose. C'est dire que quand on s'attaque à la tuberculose, il faut également s'attaquer aux facteurs de risque de cette maladie.
Vous faites bien, docteur, de parler du VIH, parce qu'habituellement, on constate que les patients infectés au VIH sont ceux qui font le plus la tuberculose. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Bon, de manière globale, c'est que ce soit le VIH, que ce soit la malnutrition, que ce soit les autres facteurs de risque, tous ces éléments concourent à réduire la force de manière globale du système immunitaire, et ce qui prédispose à faire la tuberculose maladie. Mais d'emblée, il faut dire que même si on a le germe en nous, tant que notre système immunitaire est fort, on ne va pas forcément faire la maladie.
Effectivement, docteur, il y a également une conception populaire, on me dirait aussi si je me trompe, qui laisse entendre que tout le monde est forcément porteur du germe de la tuberculose, mais que ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette maladie.
Bon, il faut dire que les données qu'on a actuellement datent quand même d'un peu... ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la séroprévalence, l'étude sur la séroprévalence au niveau national. Mais il faut dire que de manière globale, la majorité de la population ont déjà le germe en eux. Ce qui nous permet véritablement de ne pas faire la maladie, c'est notre système immunitaire qui est assez fort. C'est pour ça que quelqu'un peut attraper... la tuberculose aujourd'hui, il ne fait pas la maladie, il peut faire 5 ans, 10 ans. Mais maintenant, peut-être à l'âge adulte, quand Il devient déjà vieux, le système immunitaire s'affaiblit, il commence à faire la tuberculose. Il ne faut pas toujours accuser le voisin qui tousse à côté. Donc on ne sait pas quand on se contamine de cette maladie.
Merci pour cet important éclairage, docteur. Alors, quel est le mécanisme de surveillance de la maladie et de prise en charge des patients souffrant de tuberculose dans notre région? Tout à l'heure, vous mentionniez déjà que lorsqu'un patient a ses symptômes, c'est l'un des quatre principaux symptômes de la maladie, peu importe dans quelle fossa il se dirigerait, il pourrait être pris en charge.
Bon, il ne pourrait pas complètement être pris en charge dans toutes les formations sanitaires. Il faut dire que la prise en charge de la tuberculose se fait essentiellement dans les formations sanitaires qui disposent d'un service qu'on appelle CDT, Centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Et actuellement, dans la région, nous avons 50 CDT. Mais la région compte plus de 400 formations sanitaires. Vous voyez un peu la différence. C'est pour ça que nous avons mis en place un système de transport d'échantillons. Puisqu'on ne peut pas d'emblée ouvrir les CDT dans tous les FOSA, les formations sanitaires, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'éléments, notamment le moyen diagnostique, le personnel formé, tout cela. Mais nous, pour rattraper ce gap, nous mettons les formations sanitaires en réseau. Donc 2, 5 ou 10 formations sanitaires autour d'un CDT où dès qu'il arrive dans la formation sanitaire, on met un mécanisme pour le transport d'échantillons. Donc dans un centre de santé, on peut prélever, on envoie à l'hôpital de district pour le testing. Bon, maintenant, c'est vrai que ce système n'est pas parfait. Parce que c'est un système qu'on est en train de mettre en place et il y a quand même quelques défaillances et nous sommes en train d'y corriger.
Une fois justement qu'un patient se serait rendu dans une FOSA qui n'est pas un CDT, un centre de dépistage et de traitement, une fois qu'on l'a prélevé et qu'on a transféré l'échantillon pour testing dans un centre agréé, comment se passe la prise en charge s'il savait justement que le patient est souffrant de tuberculose?
Si le patient, après avoir prélevé et testé au laboratoire, savait que c'est un cas positif de la tuberculose, déjà le centre où le patient a été reçu contacte le patient, l'informe de sa situation et puis le réfère au CDT parce qu'en réalité là-bas on ne peut pas prendre le traitement. Donc parce que avant même de mettre le patient sur le traitement, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre. Il faut éduquer le patient sur la maladie, lui montrer comment il doit prendre son traitement, les aliments, tout ça. Donc et également comment il doit se comporter avec son environnement. Et aussi il faut également voir quand on prend en charge le patient, ce n'est pas seulement lui, mais également son entourage. Il y a également le traitement préventif qu'on donne aux enfants de moins de 5 ans qui sont en contact avec les patients tuberculeux, parce qu'en réalité, les enfants de moins de 5 ans sont une population assez vulnérable parce que le système immunitaire n'est pas mature. Donc, c'est tout cela. Donc, on réfère le malade et puis on l'explique. Mais tout cela est gratuit parce que le traitement est également gratuit.
Docteur, est-ce que la répartition géographique de ces CDT, de ces centres spécialisés de prise en charge des patients souffrant de tuberculose, prend également en compte le facteur distance? Tout à l'heure, vous mentionnez les défaillances. Est-ce que parmi ces défaillances-là, il n'y a pas également le facteur distance entre le lieu de résidence des patients et les CDT? Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques centres justement spécialisés dans la prise en charge des patients de tuberculose ici dans la région?
Oh, déjà, il faut le dire, hein, le processus de création des CDT est évolutif. Il faut dire qu'il y a de cela 2 ans, nous avons seulement 31 CDT. Mais progressivement, en fonction de la demande et en fonction de la possibilité du programme, nous créons chaque année un certain nombre de CDT. Déjà, rassurez-vous, tous les districts de santé ont au moins un CDT. C'est ça qui fait en sorte que on veut vraiment décentraliser la formation sanitaire. Tous les hôpitaux régionaux sont CDT. Tous les hôpitaux du district sont CDT. Mais maintenant, en plus de ça, il y a même certains centres de santé qui sont des CDT. Vous voyez, si on prend uniquement la ville de Maroua, nous avons quand même un certain nombre de CDT, l'hôpital régional, le CMA de Founangué, il y a CBC Miskine, il y a également le centre privé Jaringol Kodek. Vous voyez un peu, il y a même il y a l'hôpital militaire qui est un CDT, il y a l'hôpital islamique de Bamaré, il y a Kaliao. Donc vous voyez un peu, on essaie de créer de manière continue, progressive, dans la possibilité, on aimerait créer du coup tout, mais il y a également un certain nombre de contraintes. Et également dans la création de CDT, il y a un certain nombre de facteurs qu'on prend en compte. Déjà la population, la distance avec le CDT le plus proche et puis l'accessibilité également de la population. Ça, ce sont les éléments sur lesquels on se base pour créer un CDT dans une formation sanitaire.
Je suppose que vous prenez également en considération les capacités techniques de la FOSA et même du personnel soignant.
Bien évidemment, parce qu'avant de créer un CDT, il faut qu'on essaie de voir le plateau technique de la formation sanitaire. Mais le programme, après avoir créé un CDT, fait un accompagnement technique. Parce qu'il y a les formations, on programme la formation des laborantins, on programme la formation des infirmiers de registre et on fait une dotation en intrant à ces FOSA et puis dans la mesure du possible, on peut même mettre à leur disposition les outils de diagnostic, notamment le microscope, le GeneXpert, TB-LAM. Et il y a également un suivi trimestriel parce que chaque trimestre, le programme descend dans ces formations sanitaires pour voir est-ce que le suivi est de qualité. Et même il y a le contrôle qualité des lames parce que même si le laboratoire fait le test, il y a les contrôleurs au niveau de la région qui descendent pour faire la relecture. Pour se rassurer que le test est de qualité. Sinon, on fait toujours l'accompagnement pour que les résultats soient de qualité et également le traitement soit de qualité.
Alors, vous avez également tout à l'heure mentionné le volet gratuité du dépistage et de la prise en charge des patients de tuberculose. Concrètement, docteur, cette gratuité concerne quel élément du traitement, alors quel élément de la prise en charge?
Il faut dire que la gratuité, c'est gratuit. Ça veut dire que quand le patient vient à l'hôpital, c'est vrai, la consultation n'est pas gratuite parce que ça dépend de la formation sanitaire. Mais maintenant, le test de diagnostic, c'est gratuit. Après l'initiation, les médicaments sont gratuits. Il y a les examens de suivi gratuits également. Bon, mais maintenant, il faut également dire s'il y a des complications. Là, c'est autre chose. Oui, parce qu'un patient peut avoir la tuberculose, mais il peut également avoir une autre maladie. L'hypertension, le diabète, là, ça ne sera pas gratuit. Ou bien si le patient est tellement fatigué, anémié, il faut faire la transfusion, ça c'est pas gratuit. Mais c'est le médicament et puis les bilans, les examens. Mais s'il y a d'autres soins connexes, là, c'est à la charge du patient, mais il faut également le rappeler ici que la tuberculose fait partie du paquet de la couverture santé universelle que le ministère est actuellement en train de mettre sur pied.
C'est très important de faire cette précision quand on sait que c'est souvent une source de conflit entre les patients et le personnel soignant dans les fonctions sanitaires. Parce que lorsqu'un patient a la tuberculose et qu'il est habitué à aller à l'hôpital pour son suivi gratuitement, le jour où il fait savoir qu'il y a une autre pathologie, parfois ça génère des tensions. Donc c'était important d'apporter ces précisions concernant les volets de la gratuité de la prise en charge. Alors docteur, quelle est la durée moyenne du traitement de la tuberculose pulmonaire?
Alors, généralement, la durée moyenne de la tuberculose, c'est 6 mois, dans la majorité de cas. Donc, la forme pulmonaire surtout. Mais maintenant, on peut arriver à ce que ça... Et là, je précise que c'est la tuberculose sensible. Parce que de plus en plus, à part la tuberculose sensible, on a la tuberculose multirésistante dans la région.
C'est-à-dire?
Donc, ça veut dire que c'est la forme qui ne répond plus au traitement de première ligne et qu'il faut passer au traitement de deuxième ligne. Donc, c'est multirésistant. Et là, c'est autre chose. Et généralement, les patients, ce sont les patients qui refont les maladies ou bien c'est les patients qui ne suivent pas bien le traitement, c'est les perdus de vue. Parce qu'on a des cas comme ça. Le patient, il vient, il prend le traitement 2 mois, il se sent et il disparaît. 4 mois plus tard, la maladie rechute, il revient et puis ça commence. Donc, ça crée des résistances à ces médicaments. Et on est obligé de passer au traitement de deuxième ligne. Et là, il y a juste un seul centre de prise en charge dans la région. Vous allez être surpris peut-être, mais c'est le centre privé protestant de Jaringol-Codec, qui est notre centre de prise en charge des cas multirésistants. Et là, le traitement est plus long. Et là, il faut hospitaliser le malade parce que pour la tuberculose sensible, l'hospitalisation n'est pas systématique. Même le premier jour, on peut prendre un ambulatoire, mais quand c'est la tuberculose multirésistante, on a besoin d'un traitement, d'une hospitalisation d'au moins 4 mois à 5 mois avant de prendre le traitement en ambulatoire.
Vous faites savoir là que le traitement peut se faire justement en ambulatoire, dans la plupart des cas. Comment assurer ce suivi des patients durant cette période de 6 mois pour garantir non seulement la guérison du patient et éviter également qu'il ne contamine son entourage, étant donné qu'il est censé continuer de vivre en communauté?
Déjà, le premier jour, on apprécie un peu l'état clinique du patient. Si son état clinique est bon, ça ne sert à rien d'hospitaliser le malade, il peut commencer son traitement en ambulatoire. Mais maintenant, l'infirmier qui est formé peut voir, peut donner des rendez-vous réguliers. Okay? Donc, peut-être tout le mois ou tous les deux mois. Là, c'est pour voir un peu si le patient prend bien son traitement, s'il n'a pas de complications. Et en plus de ça, il y a les examens de suivi qui se fait au deuxième mois, au cinquième mois, au sixième mois pour voir est-ce que, comme on avait vu à la microscopie ou bien les autres outils utilisés pour dépister la tuberculose, comme c'était positif, est-ce qu'au deuxième mois, est-ce qu'il y a toujours la bactérie au cinquième mois, au sixième mois? Donc ça, c'est tous les éléments qui concourent à ce que non seulement le traitement est en ambulatoire, mais il y a un suivi régulier qui est planifié entre l'infirmier en charge et le malade. Parce qu'il faut également la collaboration des deux. L'infirmier ne peut pas décider que de venir toutes les semaines alors que le malade ne peut pas venir ou bien il a d'autres exigences. Donc ils essaient de voir ensemble comment planifier leur rendez-vous.
Alors, s'agissant justement, docteur, du volet contamination de l'entourage, comment est-ce que cela est pris en compte dans le suivi du patient pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que son entourage ne soit exposé?
Alors il faut dire que quand on a la tuberculose, ce n'est pas une fatalité. Et généralement, lors de l'entretien avec le malade, on l'éduque sur un certain nombre de mesures à prendre pour limiter la propagation dans son entourage.
Lesquelles?
Premièrement, il faudrait que le malade porte le masque, le fameux masque. Oui, puisque si le patient porte en permanence le masque, le fait, même quand il tousse, les gouttelettes ne seront plus propulsées dans l'air, ça limite le truc. Il faudrait également que le malade soit dans un environnement aéré le plus possible. Donc ça veut dire qu'on encourage les malades à ne pas s'effondrer, à entrer dans une chambre et à fermer tous les fenêtres et les portes. Non. On encourage plutôt que le malade soit plus à l'air libre, ok, sous le hangar, ou quand l'air passe, même quand il tousse, les becs sont détruits par les rayons ultraviolets du soleil. Donc c'est ça en fait le truc. Donc il faudrait aérer le plus possible l'endroit où on est. Il faut porter les masques. Et maintenant, si on est en contact avec les enfants de moins de 5 ans, on donne la chimioprophylaxie à ces enfants, donc un traitement préventif pour que ces enfants n'attrapent pas la maladie.
Et là, c'est toujours gratuit?
Bien évidemment, tout est gratuit à la tuberculose. Okay.
Alors, docteur, il y a des patients qui témoignent justement que lorsqu'ils sont souffrants, lorsqu'ils ont dans leur entourage un patient souffrant de tuberculose, on l'isole. Est-ce que c'est une bonne chose?
Pas du tout. En fait, les patients tuberculeux, la tuberculose, ce n'est pas une fatalité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand on prend un certain nombre de mesures, quand on a évoqué tout à l'heure, le patient peut vivre en communauté sérénement. Donc, ça ne vaut pas la peine. On a évoqué le mode de transmission, ce n'est que uniquement par la voie aérienne. Donc, on peut saluer, on peut faire. Et il faudrait justement un soutien psychologique parce que le traitement, ce n'est pas seulement les médicaments. Il faut l'accompagnement de la famille. Il faut que la famille soit là pour l'accompagner. La famille soit là pour le nourrir. La famille soit là pour l'accompagner, pour se rassurer est-ce qu'il a pris le traitement ou pas. Parce qu'en réalité, en prenant le traitement, après quelques semaines, on est plus contagieux. Donc, ça ne vaut pas la peine d'isoler le patient.
Pour les patients, justement, qui sont déjà sous traitement, comment soigner son hygiène de vie et quelles sont les habitudes, aliments et même boissons qu'il faut éviter ou alors qu'il faut plutôt privilégier?
Bon, déjà, il y a certains aliments, il y a certaines choses quand même qu'on évite, notamment l'alcool, le tabac. Vous pensez que quand on est sous traitement, on ne faut pas consommer cela. Mais l'aliment, il n'y a pas des aliments spécifiques, mais l'alimentation doit être équilibrée. doit être équilibré. Okay. Il faut qu'il y ait un apport en glucides, en protéines, en sels minéraux, en vitamines. Voilà. Donc ça veut dire qu'il peut manger son couscous, son riz avec les fruits, les trucs comme ça. Et rassurez-vous, un patient sous traitement mange beaucoup. C'est vrai qu'au début, mais dès qu'il commence le traitement, il a besoin de manger. Donc il faut donner le maximum possible. Et éviter juste ce qu'on a dit, sinon il n'y a pas quelque chose de particulier.
Docteur, comment éviter d'attraper la tuberculose et aussi que faire si on a été en contact d'un patient souffrant de tuberculose qui est encore dans la phase justement de contagion et qui n'aurait pas pris l'une des précautions que vous avez mentionnées plus haut? Que faire dans ce cas-là?
Pour éviter la tuberculose, avec l'avènement de la COVID, on nous demande de porter le masque. Donc c'est déjà un bénéfice, c'est aussi un point pour contrôler l'infection dans notre entourage. Deuxième chose également, il faut aérer la maison. Okay, notre entourage doit être sain, propre et aéré. Okay? Et également, l'autre élément aussi, dès qu'on a les signes en faveur de la tuberculose, il faut se rendre le plus rapidement possible dans une formation santé. Parce que quand on se traite, on rompt la chaîne de transmission et notre entourage est également épargné. Maintenant, si on est en contact avec un patient tuberculeux, il n'y a pas de mesures spécifiques à prendre, à part chez les enfants de moins de 5 ans. Je vous ai dit, peut-être vous-même, vous avez déjà le germe en vous. Donc, ça ne sert à rien de paniquer et puis d'entrer dans des choses compliquées.
Ce n'est que lorsque on ferait l'un des symptômes, tout sueur nocturne, fièvre, qu'il faudrait s'en inquiéter. S'il n'y a pas de symptômes, même si on était en contact d'un patient ou d'un proche tuberculeux, aucune inquiétude à avoir.
Aucune inquiétude, juste la surveillance.
Super. Alors, depuis on parle de contagion et l'on sait tous que le principal mode de prévention, c'est la vaccination. Et presque tout le monde, la plupart des personnes dans notre pays, sont vaccinées contre la tuberculose. Quelle est la durée de l'immunité procurée par le vaccin contre la tuberculose? Et est-ce que son efficacité est à 100% quand on sait justement que certains patients tuberculeux ont à la base été vaccinés?
Bon, il faut d'abord comprendre le mécanisme pourquoi on donne le BCG aux enfants à la naissance, pour comprendre la suite. Déjà, on donne le BCG à l'enfant, le vaccin, parce qu'en fait, l'enfant vient de naître, il n'a pas été exposé aux germes. Et il faut préparer son organisme à lutter contre cette maladie. C'est pour ça qu'on le vaccine. Et l'organisme a déjà eu affaire à ce genre de bactéries. Et donc, il pourra répondre le plus. Et également, le vaccin, c'est plus lutter contre les formes graves de la tuberculose, notamment la forme méningée, okay, où le taux de décès est quand même assez élevé. Donc, quand on prend le vaccin à la naissance, c'est pour préparer l'organisme à lutter contre cette maladie. Maintenant, dans notre contexte, on est dans une zone endémique. Ça veut dire que la majorité des gens, après la naissance, là, quand on est dans la rue, quand on fait les activités du quotidien, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de chances d'attraper déjà le germe. Donc ça ne sert absolument à rien de renouveler. On ne renouvelle pas le vaccin. Okay? On donne seulement aux enfants parce que le système immunitaire est encore immature. Le système immunitaire est fragile. Et là maintenant, s'ils attrapent la tuberculose, ils risquent de faire la forme grave ou bien ça risque d'évoluer de manière rapide. Okay, mais passer cet âge, ça ne sert plus à grand chose. On ne conseille plus aux adultes de se vacciner, ça ne sert à rien. Il a déjà le germe en lui.
Alors, dans ce cas, docteur, est-ce que ça ne remet pas en quelque sorte en doute l'efficacité du vaccin quand on se rend effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que parfois c'est des personnes justement préparées à résister contre la maladie par le vaccin qui finissent par toujours refaire la maladie?
Non, pas du tout, pas du tout. Ça ne remet pas en cause l'efficacité parce que je vous ai dit, l'objectif premier est d'abord de lutter contre les formes graves de la tuberculose parce que la forme grave, ça ne pardonne pas, ça tue beaucoup. Et là, et même dans les formes graves, même si on met le patient sous traitement, le pronostic n'est pas toujours favorable. Et donc, le vaccin, voilà son utilité première. à part lutter contre les autres. Mais le vaccin est très important chez les enfants. Sinon, on risque d'avoir des formes graves et puis ça va être très compliqué par la suite.
Vous avez également parlé de l'inutilité de renouveler le BCG chez les enfants, disons, d'un certain âge. Et je dois confesser que moi, ce qui me concerne, on m'avait renouvelé mon BCG, je crois quand j'avais l'âge de 14-15 ans. Est-ce qu'il y a un risque de pathologie ou bien de manifestation indirecte parce qu'on a reçu un vaccin inutile, ou alors inutilement?
Pas qu'on a reçu un vaccin inutilement. Il faut préciser certaines choses. Il y a déjà l'évolution des connaissances, vous comprenez. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, demain, ça peut changer en fonction des études qui ont été menées, en fonction d'un certain nombre de choses, vous comprenez un peu. Donc, les choses peuvent évoluer avec le temps en fonction des nouvelles connaissances qu'on acquiert. Mais maintenant, le vaccin, je vous ai dit, il faut qu'on précise cela. On est dans un environnement endémique où la tuberculose est là en permanence. C'est difficile. Le protocole, ou bien ce que je dis, n'est pas valable, par exemple, en Europe, où vraiment, là, eux, avoir un cas de tuberculose est exceptionnel. Alors que chez nous, on a encore beaucoup de problèmes. On a encore cela dans notre environnement. Donc, il faut véritablement prendre tout cela avec pincette. Et vous, quand on renouvelle, le vaccin, c'est juste quelque chose, c'est un passé vivant atténué qui ne va pas faire du mal. Donc, il n'y a pas un risque. Mais maintenant, il faut, sur le plan santé publique, renouveler quelque chose qui ne va pas servir. Ça ne sert à rien. Il faut plutôt donner à ceux qui en ont besoin. Ceux où leur système immunitaire est encore fragile, là, on les protège. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai également évoqué le traitement préventif. On donne uniquement aux enfants de moins de 5 ans parce qu'ils sont encore fragiles. Mais maintenant, quand on passe cette étape, vraiment, il n'y a pas un plus-value véritable.
Quel message contre les stigmatisations dont sont souvent victimes les personnes souffrant de tuberculose, docteur?
Alors, le message, c'est que la tuberculose, ce n'est pas une fatalité. La tuberculose, on peut guérir de la tuberculose. Et que vivre avec un patient tuberculeux ne veut pas forcément faire la maladie. Quand on prend un certain nombre de mesures, on peut aisément l'accompagner dans sa prise en charge de manière globale.
Est-ce que vous avez d'autres conseils pour sortir à donner à l'endroit de la population pour les aider justement à faire face à cette maladie qui, comme on l'a vu, elle est dangereuse et elle est contagieuse?
Alors, le message qu'on veut passer, c'est d'abord le message qui permet de reconnaître les signes et symptômes, ok? C'est que quand il y a les quatre signes, toux, fièvre, amaigrissement, sueur nocturne, il faut se rendre vers la formation de la santé la plus proche où on peut bénéficier d'un test gratuit. Si le test est négatif, c'est bien. On continue, on essaie d'investiguer d'autres maladies parce que ce n'est pas seulement la tuberculose. Si c'est positif, on vous met également sous traitement de manière gratuite. Donc c'est le message essentiel qu'on veut. Mais maintenant, il faut également se dire... La lutte contre la tuberculose ne saurait se limiter seulement au programme. Il y a également la communauté qui doit également prendre conscience de cela. Il y a les agents de santé communautaire qui travaillent avec nous. Donc, il y a tous ces acteurs d'implémentation qui doivent également accompagner le programme pour qu'on lutte de manière efficace contre cette maladie, parce qu'en réalité, sans l'accompagnement de la communauté, des leaders traditionnels et même des médias comme vous, on ne saurait mettre fin à cette tuberculose, parce que l'objectif du programme, il faudrait relever, c'est de mettre fin à la tuberculose d'ici 2035. Donc d'ici 2035, on doit mettre fin à la tuberculose et cela passe par la participation de tout le monde.
Alors, docteur, on vient de célébrer, il y a de cela quelques jours seulement, la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. Qu'est-ce qui a ponctué cette célébration ici dans notre région? Je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional de ce programme de lutte contre la tuberculose à l'extrême nord.
Oui, effectivement, le 24 mars de chaque année, c'est la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et donc le groupe technique régional, avec l'accompagnement de ses partenaires, nous avons fait quand même un certain nombre d'activités durant cette semaine. Ce n'est pas seulement le jour, mais durant la semaine. Déjà, nous avons diffusé des spots de sensibilisation sur la prévention, sur le diagnostic, sur le traitement. Nous avons aussi organisé des campagnes de dépistage avec l'OBC Life and Care, okay, parce qu'il y a également les communautaires qui nous soutiennent dans cela. Une campagne de dépistage de masse dans le district de santé de Maroua 2. Donc vraiment, il y avait un certain nombre de choses que nous avons eu à faire durant cette semaine. En fait, l'objectif de la semaine, c'est véritablement de sensibiliser davantage la population sur cette pathologie et de faire adhérer la communauté dans la lutte.
Docteur Ganava Maurice, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du groupe technique régional de lutte contre la tuberculose. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de santé pour tous sur Radio Rosséré.
Ok, ça fait un plaisir et nous sommes toujours disposés à vous accompagner dans cette noble tâche qui est de sensibiliser la population. Merci beaucoup.
Avant de conclure cette émission, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter un petit résumé en langue foufoulée du contenu de cet entretien avec notre invité. C'est une traduction que nous propose Badriatou Bello Bouba.
Héritito Béamine, on donne kédito Syria wa Moudon Donjamoun. Nous émission nationale go Inden Bouaza go Donjamoun ha Radio Hosere. Syria wa Hande don Wolwala Nyaw Sondaru et Dabareji Habgo Bemaga Ner Marwa. En jabbake docteur Ganava Maurice, mawdo ha groupe technique régional kabanga be nyaw sondaru ha der jiya sebito woyla da kandi mandago der commune biidi nyaw sondaru nanganga fufu dum sondaru lattinga kallunga erabo wabo ngado wanga be wangugo kuje nayide sondago wulgo bandu timmugo bandu wala foire wulingo jamum gal jemma e ngamta goddo rena seito mati battede fu hidde ko yaha bariki foti ko to mati battede gotel chakaman goddo foti mara nyaw sondaru to on mati ko ma goddo mon mati battede limtuden yawa ya go ko ma yarugo goddo man bariki urdan gabadago be tammi hoojugo on e be kakkirana on haa be ngaddana on examenji. To resultat nga ngaddon man hollini on don mari sondaru, be tammi hurgugo on e wala ko sunku didi tammi don hokkugo. Do kam ko laarani examen be lekki fu. En don mari barikiji chappan joyi di be cenditi haa nder gure men. Je ko laarani no be pamrata to goddo don mari nyawman e no be kurgata ngabo. To kadi ha gondon fu jehe bariki badinga on be tammi yarugo on bariki wa tamminga suklanago on to on don mari nyaw sondaru nyawndi gu sondaru don wada lebbi jeego amma goddo man walata ko bariki ngam man be don biya nyawdo aina traitement e be jakto nyalde yago mabbe bariki ton ko cei lekki nyawndi gu man no hoterte nyawndi gu man jutan nyaw sondaru man bo maroyan sembe eto wadi non kam dole sey goddo walo bariki maran be nyaw sondaru sey kakkila be gondi man ta dum raba be sey goddo fecina suudu mun e wado kashne hebata sankita nyaw man to on don mari himbe marbe sondaru har ciye mon nyaw sondaru la taaki masibu ta tajoden be balliten be nyama boddum e be kochale kima be no hochorte en poti en gonda be mardo nyaw sondaru amma ngara bata en sakko ma bawo asaweje nyawndigu seda nyawman ga tammi wartugo ngara bata heritittobe tilimbe to wodi ko besdan ton min do hala bolwaka hande on poti on gerbana min message ko ma vocal gal whatsapp ha labi karallagal jeego jenayi joyi gotel nayi jeego tati jeego didi jeego jenayi joyi gotel nayi jeego tati jeego didi min ceyoto jaabaago boliide mon. Hidde ko min ciriyana on siriyawa ngonga on poti on keɗito min do internet ha adres nga www.radiohosere.com. to kadi tange jite faddago buran nyawdago.
Amis auditeurs, c'est bientôt la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui s'est arrêtée aujourd'hui sur la tuberculose et sur les mécanismes de riposte contre cette maladie dans notre région. Nous remercions encore le docteur Ganava Maurice pour nous avoir ouvert les portes du groupe technique régional afin de nous permettre de toucher du doigt les efforts déployés pour maîtriser, voire éradiquer la tuberculose dans la région de l'extrême nord. Mesdames, Messieurs, nous l'avons suivi. La tuberculose pulmonaire est une forme de tuberculose grave et contagieuse qui se manifeste par quatre principaux symptômes, à savoir la toux, la fièvre, la perte de poids ou amaigrissement et enfin les sueurs nocturnes. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'attendre de ressentir les quatre symptômes à la fois. Un seul peut déjà suffire pour suspecter la tuberculose. Si vous ou l'un de vos proches ressent ces symptômes, rendez-vous dans la formation sanitaire la plus proche. Un mécanisme est mis en place pour vous prélever et vous diagnostiquer dans un centre agréé à cet effet. Si le test révèle que vous souffrez de tuberculose, vous serez mis sur traitement sans que vous n'ayez à débourser 5 francs, ni pour le test, ni pour le traitement. Le traitement de la tuberculose peut durer jusqu'à 6 mois sans forcément nécessiter une hospitalisation. Toutefois, il est recommandé aux patients d'être assidus au traitement et aux rendez-vous médicaux, et aussi d'adopter des mesures idoines pour éviter de mettre en danger leur entourage. Il faut pour cela bien aérer la pièce de la maison dans laquelle vous vivez et porter régulièrement un masque de protection pour éviter de propager dans l'air les particules contagieuses. Pour vous autres qui avez des malades de tuberculose autour de vous, cette maladie n'est pas une fatalité. Il ne faut pas les stigmatiser, mais plutôt les soutenir, veiller à ce qu'ils s'alimentent bien et prennent convenablement leurs médicaments. Fidèles auditeurs, si vous souhaitez un complément d'information ou tout simplement réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voice par WhatsApp au 695 14 63 62. La mise en œuvre de cette émission a été possible grâce au concours de Martino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steph B, au micro de présentation. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous avez aussi la possibilité de nous écouter et de nous réécouter sur Internet à l'adresse www.radioserré.com. En attendant de nous retrouver pour une prochaine édition, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.